Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Édition spéciale sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est une Amérique divisée qui se prononce dans un vote crucial pour le contrôle du Congrès américain.
Le nombre qui vont voter dans cette élection sera très important. Vraiment, cette élection a une prise sur le public américain.
Au Cameroun, le président Paul Biya a prêté serment pour la 7e fois dans un climat de tension dans les régions anglophones.
Il y a 3 grands défis. Il y a un défi sécuritaire, il y a un défi social et un défi économique. Pour nous, il est déterminé par un défi central qui est le défi de la démocratie.
Madagascar à la veille d'une prélisée La Grande Île et Washington octroie au Sénégal 319 milliards de francs CFA dans l'actualité économique. Et bien sûr, ne ratez pas les sports avec le PSG qui joue son avenir européen en Ligue des Champions. Mais tout d'abord, le journal. Et des élections cruciales se tiennent aujourd'hui aux États-Unis. La participation s'annonce excellente. Déjà plus de 36 millions de bulletins ont été déposés par procuration ou anticipation. Allons dans l'état de Virginie, dans la ville d'Alexandria, à quelques kilomètres de Washington. Notre envoyé spécial John Lyndon se trouve sur place. Bonsoir John.
Oui, bonsoir Aïssa. Il faut dire que la pluie a recommencé ici et... le vote se poursuit. Il faudrait quand même qu'on verra peut-être à la fin pour voir quel aura été l'impact de cette pluie sur les gens qui sont venus voter. Qu'à cela ne tienne, le vote se poursuit ici. Les gens remplissent leurs devoirs. Chacun vote pour son parti et on va continuer de suivre ça.
Alors John, quels sont les swing states, les états clés qui pourraient donner la victoire à un camp?
Alors, sur le plan national et à chaque élection, on parle toujours de ces états-clés. On suivra donc ce soir de très près les résultats dans certains de ces états-clés, comme la Floride. Pour ce qui est du Sénat, le démocrate Bill Nelson est, par exemple, en compétition avec l'actuel gouverneur Rick Scott, toujours en Floride. Cette fois, pour ce qui est du poste de gouverneur, le jeune démocrate et premier noir à ce poste, André Quilum, sera aux prises avec le républicain Ron DeSantis. Un autre état-clé qui a souvent fait parler de lui pendant les élections, c'est la Floride où on va suivre, c'est de la Floride justement dont on parlait tout à l'heure, mais un autre état-clé, c'est la Géorgie où le poste de gouverneur est convoité par Abraham Stacey, c'est la première femme noire à ce poste et qui est en course avec un républicain, Brian Kemp. Et d'autres états clés dont on parle ici, c'est l'Indiana, le Kentucky, le Texas, où le républicain Ted Cruz défend son poste au Sénat, la Virginie de l'Est, l'Arizona, le Missouri ou encore même la Virginie, l'état où nous trouvons. Ce seront des états à suivre et les résultats dans ces états-là pourront faire basculer le camp démocrate ou républicain.
Merci
au Sénat
beaucoup.
Ou au Congrès.
Merci beaucoup, John Lyndon, notre envoyé spécial.
Merci.
Alors, qui des démocrates ou des républicains va prendre le contrôle du Congrès américain? Plus de 105 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, 36 millions déjà votés par anticipation. Le point avec Arzuma Compaoré.
C'est jour d'élection et c'est à la Maison Blanche que le président Trump va passer cette journée de retour de son 44e rallye de campagne 2018.
C'est mon dernier arrêt, n'est-ce pas?
Dans le Missouri, il a exposé les enjeux de ces élections.
Nous devons élire un Congrès républicain. Nous devons le faire.
Et une fois de plus, le président a joué la carte de l'immigration clandestine pour tenter de convaincre.
Les démocrates invitent caravane après caravane. N'est-ce pas gentil ça? Des étrangers illégaux.
Mais rien ne prouve que les démocrates aient quoi que ce soit à voir avec les caravanes de migrants fuyant la violence et la pauvreté en Amérique centrale. Le président s'est dit prêt à adopter un ton moins dur.
J'aimerais avoir un ton beaucoup plus doux.
Mais il a nié le fait que sa rhétorique enflammée sur l'immigration ait encouragé le racisme dans le pays. L'ancien président Barack Obama était également sur la route la semaine dernière, battant campagne pour les démocrates et dénonçant des mensonges dits par Trump.
Contrairement à certaines personnes, je ne vante rien lorsque je parle. Je me base sur des faits.
Lundi, Obama était devant ses partisans dans le nord de la Virginie pour tenter d'aider les démocrates à reprendre au moins le contrôle de la Chambre. Les 435 sièges à la Chambre des représentants et 35 au Sénat sont en jeu dans ce vote. Les démocrates ont besoin de 23 sièges pour reprendre le contrôle de la Chambre et ils ont besoin de 2 sièges au Sénat.
Et donc les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu, alors qu'au Sénat, 35 sièges, soit le tiers, sont âprement disputés. James Cesar, professeur à l'Université de Virginie, revient sur les enjeux au micro de Morgane Guiriec.
Pour les républicains, la chose la plus importante est de maintenir le contrôle du Congrès, du moins d'une partie du Congrès, le Sénat ou la Chambre des représentants.
Si le camp républicain était amené à perdre du terrain, ça voudrait dire quoi pour eux concrètement?
Les résultats des sondages jusqu'à maintenant qui suggèrent que les républicains vont maintenir le contrôle du Sénat, alors que les républicains vont probablement perdre la Chambre des représentants. Donc le résultat sera mixte. Les républicains.
Il y a aussi des enjeux pour le président.
Et on peut dire que le président a essayé de nationaliser les élections. Il a dit que c'est une élection qui va tourner sur lui-même. Il s'agit de Donald Trump. Est-ce qu'il est bon ou non? Pour les démocrates, s'ils contrôlent la Chambre des représentants, quelques-uns parlent d'un processus d'impeachment, alors que je doute que ça va continuer. Et ils vont aussi probablement questionner, interroger les membres de l'administration.
Quels sont les enjeux pour les démocrates aujourd'hui?
Démontrer que le président ne contrôle pas et que les républicains n'auront plus une majorité ferme. Si les démocrates réussissent à prendre la Chambre des représentants et si les démocrates contrôlent plus de gouverneurs, ça va montrer que le pays est divisé entre deux partis politiques et que les démocrates auront une voix sur le plan national.
Et au niveau législatif, ça leur donnerait quel poids?
Peu, parce que le Sénat peut bloquer tout ce que la Chambre des représentants vote, mais il sera difficile pour les républicains de faire des choses sans la Chambre des représentants. Donc, si c'est le résultat, on aura une période où il y aura peu de législation pour les 2 ans qui viennent.
Les taux de participation sur les midterms sont généralement assez bas, n'est-ce pas?
Normalement, c'est 30% moins que les élections présidentielles, mais c'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant avec les gens qui ont déjà voté, que le nombre qui vont voter dans cette élection sera très important. Vraiment, cette élection a une prise sur le public américain.
Et comment l'expliquer, ça?
Probablement, c'est l'effet du président. Il est tellement important, si vous voulez, dans le sens positif pour les républicains et négatif pour les démocrates.
Et c'était James Cesar, professeur à l'Université de Virginie, pour clore cette édition spéciale sur les élections de mi-mandat aux États-Unis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, Paul Biya a prêté serment pour un 7e mandat à la présidence. Fait notable, dans son discours d'investiture, le chef de l'État a reconnu les frustrations et les aspirations en zone anglophone, là même où 82 personnes avaient été enlevées hier. Il a également lancé un appel aux sécessionnistes anglophones à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le sujet de la crise anglophone est revenu plus d'une fois dans le discours d'investiture du président Paul Biya. Avant de lancer un appel aux sécessionnistes à déposer les armes, le président élu a promis, je cite, « aux entrepreneurs de la guerre qu'ils se heurteront à la rigueur de la loi et la détermination des forces de défense et de sécurité ». En prêtant serment ce jour, Paul Biya a maintenu sa grille de lecture sur la crise anglophone qui, selon lui, a été orchestrée par, je cite, « des forces négatives ». Auteur d'actes de violence terroriste, ayant entraîné particulièrement des jeunes dans une aventure sans lendemain, fin de citation. Sur un ton plus conciliant, le président au pouvoir depuis 36 ans a reconnu les frustrations, les insatisfactions et les aspirations de la grande majorité des Camerounais originaires du Nord et du Sud-Ouest anglophone. À ces derniers, il a promis, dans les meilleurs délais possibles, plus de transferts de compétences, notamment aux collectivités territoriales. Le président Biya a en outre pris un engagement ferme à faire revenir le calme et la sérénité dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et 24 heures après la vague d'enlèvement dans la région de Bamenda en zone anglophone, Chris Anou, le secrétaire à la communication de l'autoproclamé en Ambazonie, dit que ses forces ont sauvé les 80 élèves et promettre de les libérer sous peu. Le point avec Bagassi Koura.
Our restoration forces stormed the vicinity where the children were being kept.
Nos forces de restauration ont pris d'assaut l'endroit où les enfants étaient gardés et ils les ont libérés. Donc en ce moment, ils sont encore entre nos mains. Nous les interviewons pour savoir ce qui s'est réellement passé.
Our forces did not abduct the children.
Nos forces ne les ont pas kidnappés. Les forces camerounaises se sont déguisées comme nos forces. Il y a même un qui a porté une fausse moustache pour paraître comme un de nos soldats et ils ont kidnappé les enfants. S'ils n'ont pas été libérés, ce sera fait d'ici tôt demain matin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et l'actualité économique avec Nani Talani.
Le Sénégal reçoit 319 milliards de francs CFA des États-Unis pour le second compact du Millennium Challenge Corporation qui va s'articuler autour de trois projets, la modernisation et le renforcement du réseau de la Société nationale d'électricité, l'accès à l'électricité en zone rurale et l'amélioration du cadre légal et des capacités des acteurs. Le gouvernement sénégalais avait achevé un premier compact axé sur les secteurs de l'agriculture et des transports en septembre 2015. La croissance économique du Mali devait ralentir à 5% en 2018 contre 5,3% en 2017, d'après un communiqué du Fonds monétaire international. La mise en œuvre du programme économique et financier au cours du premier semestre 2018 a été globalement satisfaisante. Le FMI a d'autre part recommandé aux autorités maliennes d'accroître leurs efforts en matière de gestion budgétaire afin d'améliorer l'administration fiscale, l'efficacité de la taxation du secteur minier et des recettes sur les produits pétroliers, ainsi que la gestion des finances publiques.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Alors Benatia et Boufal de retour avec le Maroc.
Le Maroc enregistre 3 retours dans son groupe avant d'affronter le Cameroun pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Il s'agit de Mehdi Benatia, Sofiane Boufal et Amin Harit. Absent des listes depuis la Coupe du Monde Russie 2019, le capitaine Benatia revient donc en sélection avec ses 58 caps. Boufal lui est récompensé de ses belles prestations avec le Celta Vigo, tandis que Harit revient après avoir purgé sa suspension pour l'état de conduite. Les Lions de l'Atlas n'ont pas encore validé leur ticket. En plus du Cameroun, le Maroc affrontera la Tunisie en amicale le 20 novembre.
Le Burkina Faso fera face à l'Angola sans Dabo.
Oui, le milieu de terrain de la Fiorentina ne figure pas dans la liste des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur Paulo Duarte. En dehors de l'absence de Brian Dabo, le reste c'est du classique avec Hervé Kofi Kwaku, Charles Kabouré et les frères Traoré. En seconde position dans son groupe avec 7 points, le Burkina Faso a besoin d'une victoire pour valider sa qualification.
Le Sénégal enregistre 3 forfaits pour son match, Yacouba, contre la Guinée équatoriale.
Le gardien Abdoulaye Diallo, le latéral gauche Racine Koli et l'attaquant Moussa Konaté ont déclaré forfait, d'après la presse locale. Pour les remplacer, le sélectionneur Aliou Cissé a fait appel au gardien de l'AS Monaco Seydou Si, au latéral gauche des camps Adama Mbeng et à l'attaquant de Metz Habib Diallo. Auteur de 11 buts en 13 matchs de Ligue 2 cette saison, ce dernier fête sa première convocation. Pour rappel, le Sénégal est déjà qualifié pour Cameroun 2019.
Et pour finir en Europe, le PSG joue son avenir européen en Ligue des Champions ce soir.
2 semaines après le nul miraculeux, 2-2 arraché au Parc des Princes grâce à un exploit d'Angel Dia. Dans le temps additionnel, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus droit à l'erreur. En cas de contre-performance à Naples, Paris, 3e de son groupe avec 4 points, derrière Naples et Liverpool, aura quasiment dit adieu à la Ligue des Champions cette saison. Toujours en Ligue des Champions, vague de forfait pour l'Atlético Madrid, le milieu offensif Thomas Lemar souffre d'une blessure musculaire et sera forfait ce soir contre Dortmund. Le club colchonero sera aussi privé de Diego Godin et de Stefan Savic en défense, de Koke et de Diego Costa. À suivre aussi Inter Milan, Barcelone, Tottenham, PSV.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin pour vous présenter les dossiers du jour. Au Cameroun, Paul Biya prêtait serment pour un septième mandat dans un contexte national marqué par la crise anglophone. Mais que peut faire encore Paul Biya qu'il n'a pas réalisé en 36 ans au pouvoir? Nani Talani a joint à Yaoundé Hilaire Kanga, le porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Bien, sur le plan national, il y a trois grands défis, les femmes. Il y a un défi sécuritaire, il y a un défi social, il y a un défi économique. Ceci, à la réalité, est déterminé par un défi central qui est le défi de la démocratie, on peut parler en ces termes. Il va falloir, pour M. Biya-Paul, adresser de manière concrète la crise dans les régions anglophones. Et on peut, sur ce sujet-là, dire que son discours de prise de fonction a donné, dans le type de vocabulaire qu'il a utilisé, une indication sur le changement de paradigme de la part de M. Biya, parce que dans tout le discours, on n'a pas pu entendre le mot terroriste, il y a eu plutôt le mot sécessionniste et autres qui est apparu. Cela veut dire qu'il se met dans une prédisposition de dialogue, dès l'instant où le dialogue ne peut pas se faire avec des terroristes. Sur le plan social, il faut noter que la crise sociale est grave, c'est d'ailleurs pour ça que les meetings au cours des campagnes ont été très populaires contre lui, M. Biya-Paul. Et sur le plan économique, on se retrouve avec une situation extrêmement grave, qui est celle où le Cameroun est sous ajustement pratiquement avec le Fonds monétaire international. Et sur le plan politique, il vient d'être déclaré élu dans un contexte de contestation grave, dont il y a une crise de légitimité et donc de gouvernance. Cela induit ce qu'il fera pour essayer d'organiser la transition, parce qu'on est convaincu à 85 ans qu'il aura beaucoup de peine à finir le mandat.
Est-ce que ça sera possible de réconcilier ce pays divisé avec le conflit qui secoue la zone anglophone?
Mais ça ne va pas être facile. Et ce sera même d'ailleurs quasi impossible sous M. Biya-Paul, puisqu'il ne fait rien de manière fondamentale pour essayer de mettre en difficulté ceux qui, dans son propre camp, exacerbent les divisions. Il ne fait rien parce que le tribalisme est en train de monter d'un niveau très élevé aujourd'hui au Cameroun. Le régionalisme est en train de s'exacerber et malheureusement, on ne voit pas une tendance au niveau du leadership national à mettre un terme à ce mois, à cette fléau. Il y a plutôt comme une volonté d'exacerber cette fléau-là pour mieux se maintenir au pouvoir, dont le challenge va être très très difficile si M. Biya-Paul ne change pas de cap.
Qu'est-ce que Paul Biya peut encore faire qu'il n'a pas fait en 36 ans au pouvoir?
Il est évident que M. Biya ne peut plus rien faire. On ne peut pas, à cet âge-là, après 36 ans, avoir un discours novateur. Il me semble que c'est plus un mandat de maintien et d'organisation de la manière dont son équipe va pouvoir assurer le relais après lui. Parce qu'il n'y a aucune innovation possible qu'il puisse apporter aujourd'hui. Il n'est pas l'homme de la situation, mais il est l'homme qui peut permettre une transition politique crédible au Cameroun, si jamais il peut projeté dans l'avenir et dans la postérité.
Comment est-ce que vous prévoyez le futur du Cameroun avec ce septième mandat de Paul Biya?
Malheureusement, mesdames, écoutez, je suis très, très sceptique quant à la stabilité du Cameroun au cours de ce mandat.
Hilaire Kanga, le porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Forum sur la paix et la sécurité s'est tenu cette semaine à Dakar, au Sénégal, à un moment où plusieurs États de la région sont éprouvés par des attaques terroristes. C'est le cas des pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Alors comment une telle rencontre sur la sécurité peut aller au-delà des discours pour proposer des solutions concrètes? Bagassi Koura a posé la question à Babacar Samb, l'ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte.
On a bien développé le rôle du développement. Le développement ne peut avoir lieu que si la sécurité est assurée. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, bien entendu, le fait que le ministre de la Défense de la France y ait participé, cela montre quand même l'intérêt qu'on donne donc à la coopération entre l'Afrique et la France pour assurer la sécurité et donc le développement au niveau de la région soudano-sahélienne, la bande donc soudano-sahélienne et surtout, on sait bien, les pays qui sont concernés. Mais les Africains eux-mêmes
Effectivement, ils ont beaucoup insisté pour, comme le président burundais, l'ancien président, qui dit qu'il faut absolument que les Africains prennent en charge leur propre sécurité et que contribuent également à l'encadrement de la jeunesse pour qu'il y ait moins de risques de voir ces jeunes entrer dans des bandes un peu djihadistes ou terroristes dans la sous-région.
De par le passé, on a vu quand il y avait des rébellions, notamment au Libéria, en Sierra Leone, et aussi les coups d'État, on a vu que les États de la CEDEAO parlaient d'une même voix, avec une force qu'on appelait ECOMOG. Mais aujourd'hui, un pays comme le Burkina Faso ou même le Mali est attaqué chaque jour et la communauté ne réagit pas vraiment.
Non, ça c'est vrai qu'au niveau de l'ECOMOG, ça c'était la CEDEAO, mais il y a le G5, donc qui existe. Je crois que c'est une concertation qui est mise en place donc depuis presque de 7-8
oui,
mois.
Le G5, mais dont le Sénégal ne fait pas partie, dont le Ghana ne fait pas partie. Le Ghana ne fait pas partie, le Bénin n'en fait pas partie. Du coup, on a l'impression que les autres pays regardent les pays pauvres du Sahel se défendre seuls.
Ouais. Un pays, par exemple, comme le Sénégal, le Ghana, où on estime qu'ils sont loin du théâtre réel, donc des djihadistes et des bandes terroristes dans le Sahel. Mais je crois qu'il faut absolument élargir donc ce cadre de concertation pour intégrer des pays qui ont de l'expérience dans les casques bleus comme le Sénégal, qui a envoyé des troupes un peu partout. Je crois que son armée, effectivement, pourrait contribuer plus efficacement donc dans l'intervention contre donc des attaques inopinées et incontrôlables qui viennent donc des bandes organisées dans le Sahel.
Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Et à Madagascar, un pays où 91% de la population vit avec moins de 2 dollars américains par jour, un électeur, Joseph Rodolphe Solo, explique selon lui comment le nouveau gouvernement, qui doit diriger l'île après les élections du 7 novembre, devrait améliorer l'économie nationale. Des précisions avec Irénée Hermanongbo.
Quel que soit le vainqueur de la prochaine présidentielle malgache, Joseph Rodolphe Solo souhaite qu'il crée des emplois dans un pays déchiré par la pauvreté malgré ses ressources. Solo n'a que 20 ans. En journée, il effectue de petits travaux dans le secteur de la construction et travaille comme cuisinier le soir afin de pouvoir joindre les deux bouts.
Je viens ici tous les matins et le soir je vais à d'autres jobs puisque je ne gagne pas assez d'argent en tant que constructeur. Le coût de la vie augmente constamment.
Comme beaucoup d'autres malgaches, il veut d'un leader capable de changer la vie des jeunes. Durant la campagne, les trois principaux candidats, R. Rajomanapiam et ses deux principaux concurrents, Marc Ravalomanan et Ange Radjoel, ont parcouru le pays avec des promesses électorales ambitieuses. Bien que la stabilité politique relative observée depuis les élections de 2013 ait permis une reprise de l'économie, la majorité des 25 millions d'habitants de l'île vivent en dessous du seuil de pauvreté. Clémence Oliga est une jeune fille de 18 ans sans emploi.
J'ai dû arrêter d'aller à l'école pour me trouver un travail à faire parce que mes parents ne pouvaient plus me payer les frais de scolarité.
Le vainqueur de la présidentielle a donc l'obligation de répondre, entre autres, aux préoccupations de la jeunesse avec des actes concrets, indique Joseph Rodolphe Solo.
La vie est souvent plus difficile avec chaque nouveau président, c'est pourquoi je vais voter, espérant que nous aurons non seulement un bon président, mais surtout quelqu'un avec une vision pour les jeunes.
33 autres candidats sont en liste pour cette présidentielle malgache, mais très peu parmi eux ont de l'influence ou encore de l'argent en vue de conquérir l'électorat de l'île sur la base d'un programme crédible capable de sortir le pays de son gouffre économique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ils étaient tant attendus en République centrafricaine, ils y ont enfin posé leurs valises. Il s'agit de l'équipe du cinéma numérique ambulant, qui est un réseau international d'unités mobiles de projection de cinéma numérique présente en Afrique et en Europe. Pascal Serra nous emmène à leur rencontre lors de leur première installation à Bangui. Le récit est de Saloua Jafari.
Créé en Europe il y a 18 ans, le cinéma numérique ambulant compte désormais une nouvelle unité de projection en République centrafricaine. Ce pays s'ajoute donc à une liste d'environ une dizaine de pays africains tels que le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Cameroun. Stéphanie Dongmo est présidente du CNA au Cameroun.
Vu la situation de la Centrafrique avec la crise qui perdure, nous y étions plutôt favorables parce que nous préférons aller quand même dans des zones où les gens ont vraiment le plus besoin de ce que nous leur apportons. Parce que le cinéma apporte également un appui psychosocial à des personnes qui ont été traumatisées, qui ont été longtemps en crise. C'est pour ça qu'on a choisi aussi la Centrafrique parce qu'il y avait un énorme besoin.
Allô, allô.
Lancé en 2001 en Afrique, la particularité du cinéma numérique ambulant est de s'installer dans des régions enclavées ou encore de faire bénéficier aux populations défavorisées habitant dans des zones reculées la diffusion de films, de documentaires et des contenus à caractère pédagogique ou de sensibilisation. Dans un pays comme la République centrafricaine, où environ 80% du territoire est occupé par des groupes armés, le travail des équipes s'avère délicat, mais pas impossible. Serge Mbilika est le président du CNA en RCA.
Je crois que la démarche du cinéma numérique ambulant, c'est à peu près une démarche un peu participative. C'est-à-dire, quand on veut organiser une projection, on fait de manière à ce que tout le monde soit impliqué. C'est-à-dire, on ne vient pas juste voilà, avec le matériel, du coup, on arrive quelque part, on déballe, on installe, et puis après, qu'on commence à projeter. Non, il y a une phase de travail. Il y a un travail qui se fait d'abord en amont, où on va, on rencontre toutes les autorités locales, on rencontre les personnes qui peuvent nous aider à ce que cette campagne, cette projection réussisse. Et donc, il y a ce travail qui doit être fait. Donc, si on arrive, par exemple, dans une zone où c'est occupé, par exemple, par les groupes armés, il va falloir qu'on parte, qu'on dialogue avec ces groupes armés, qu'on leur explique l'objet de notre présence-là et qu'on demande également leur adhésion à cette séance de projection, en fait. Et donc, ailleurs, ça a marché. Ailleurs, les gens arrivent vraiment à convaincre et puis à ce que les groupes armés, les rebelles puissent accepter à ce que ce travail-là se fait.
Depuis leur début, les projections organisées par le CNA rencontre un fort succès au sein de la population centrafricaine. Dans ce pays où les moyens de divertissement sont assez restreints et dans lequel n'existe pas de salle de cinéma, la présence du cinéma numérique est l'un des uniques moyens de joindre l'utile à l'agréable.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats, RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, merci. À la console, Calvin Fowler. Raissa, la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa,
Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.